Bienvenue à vous pour cette soirée qui marque donc la création de cette chaire de théologie œcuménique au Centre Sèvres. En tant que président du Centre Sèvres, je suis très heureux de vous saluer dans la diversité des églises que vous représentez. Et je salue en particulier ceux d'entre vous qui, à des titres divers, exercent des responsabilités au service de l'œcuménisme. Votre simple présence indique le prix que vous attachez à la réconciliation des églises, et je m'en réjouis beaucoup. Sans doute, en même temps, avons-nous tous encore à faire un chemin de conversion, jusqu'à ce que les réflexes de pensée ou de jugement, qui souvent sont là en nous malgré nous, soient eux aussi touchés par l'Évangile, et que peu à peu, ils se mettent à son service. C'est précisément pour cela que nous avons décidé de lancer cette chaire de théologie œcuménique, afin que les étudiants du Centre Sèvres, mais aussi les enseignants et également les auditeurs, nous soyons stimulés pour désirer la communion des Églises, et cela en profondeur, jusque dans cette zone qui nous échappe en grande partie où nos jugements s'élaborent. Pour cela, il faut du temps. Il faut sans cesse revenir à l'exercice de l'écoute de l'autre. Et nous avons pensé qu'une chaire de théologie œcuménique nous serait bien utile pour aller en ce sens. Cette chaire est confiée à Anne-Cathy Graber et à Michel Fédou, tous deux membres du groupe des Dombes et engagés dans d'autres instances œcuméniques. Michel Fédou, je pense que vous le connaissez tous. Il a été doyen de la faculté de théologie, président du Centre Sèvres. Bref, c'est un pilier de la maison, on peut dire. Anne-Cathy Graber est membre de la communauté du Chemin Neuf et elle vient d'arriver parmi nous comme enseignante. Elle est pasteur ménonite et théologienne. Elle enseigne dans le domaine de la théologie systématique et a fait sa thèse à l'Université de Strasbourg en théologie mariale. Une lecture comparée de Redemptoris Mater et du commentaire du Magnificat. Merci beaucoup à Anne-Cathy et également à la communauté du Chemin Neuf de nous aider ainsi à avancer vers une conscience œcuménique plus enracinée, ici au Centre Sèvres. Je laisse la parole à Michel Fédou et vous souhaite une très bonne soirée.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis à mon tour très heureux de vous accueillir. Je vous remercie de votre présence à tous. Je salue en particulier le doyen de l'Institut protestant de théologie, M. Pierre-Olivier Léchaud, le directeur de l'Institut supérieur d'études œcuméniques de l'Institut catholique de Paris, le père Luc Forestier. J'ai reçu un mot très cordial du père Nicolas Tchernokrak, le doyen de l'Institut Saint-Serge. Il a été retenu par une obligation, mais il m'a écrit très chaleureusement. De même, monsieur Christophe Payat, le doyen de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Mais cette faculté est représentée par monsieur Neil Blau. Je salue aussi monseigneur Jean de Kéroupolis, archevêque exarque de l'exarchat des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. Le père Alexandre Siniakov, recteur du séminaire orthodoxe russe, le père Emmanuel Gougaud, directeur du service pour l'unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France, le pasteur Anne-Laure Danet, en charge des relations œcuméniques de la Fédération protestante de France, le pasteur Didier Crouzet, secrétaire général de l'Église protestante unie de France. Je salue plus largement, sans pouvoir toutes les nommer, bien évidemment, les autres personnes qui représentent ici diverses églises et confessions chrétiennes, catholiques, anglicanes, protestantes, évangéliques, orthodoxes. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Et bien sûr, dès maintenant, je remercie tout spécialement les deux intervenants, Madame Catherine Schirk-Lucas et le pasteur Frédéric Chavel, que nous présenterons plus tard dans la soirée. Avant d'en venir à leurs interventions, il nous a semblé important, Anne-Cathy Graber et moi-même, de vous dire brièvement quelques mots sur cette chaire de théologie œcuménique qui est inaugurée ce soir. Il est heureux que par une belle coïncidence, qui d'ailleurs nous avait échappé au point de départ, et soit inauguré un 11 octobre. C'est une date anniversaire, car vous le savez, c'est le 11 octobre 1962 que s'est ouverte la première session du Concile Vatican II, qui a été un événement si décisif pour l'engagement de l'Église catholique dans l'œcuménisme. Alors, pourquoi une chaire d'œcuménisme au Centre Sèvres? Il existe déjà, fort heureusement, quelques institutions qui sont fortement engagées dans le dialogue œcuménique sur Paris et ailleurs. De nouveau, je voudrais nommer l'Institut supérieur d'études œcuméniques. J'ai déjà eu l'occasion de saluer son directeur, le père Luc Forestier. Cet institut, l'ICEO, qui, comme vous le savez, organise entre autres, chaque année au mois de mars, un important colloque dans le champ de l'œcuménisme. Et naturellement, on pourrait mentionner d'autres lieux, comme le centre Istina et la revue qui porte le même nom, et d'autres encore. S'il nous a paru important de lancer ici même au Centre Sèvres une chaire de théologie œcuménique, c'est d'abord pour donner une visibilité plus grande à ce qui s'est déjà fait au Centre Sèvres depuis un certain nombre d'années. En particulier, je voudrais le souligner, grâce au travail du père Bernard Cesboué, qui est ici présent, et de sœur Anne-Marie Petitjean, qui est également présente dans cette salle. Donner à l'œcuménisme une plus grande visibilité dans une institution comme la nôtre, c'est aussi contribuer à ce que la préoccupation œcuménique ne soit pas simplement le fait de quelques-uns, mais qu'elle puisse de quelque manière marquer tous les enseignements et qu'elle soit perçue par les étudiants, eux aussi, comme une préoccupation essentielle à la théologie chrétienne. Cette chaire n'est pas une chaire d'œcuménisme en général, elle est une chaire de théologie œcuménique. Il nous semble en effet que si un centre d'études comme le nôtre peut apporter quelque chose à l'œcuménisme, c'est précisément par sa manière de contribuer, même modestement, aux avancées d'une théologie œcuménique. Il s'agit là d'une tâche de pensée et de dialogue, une tâche qui certes ne dispense nullement des autres formes d'œcuménisme si précieuses qui existent sur le terrain, mais une forme d'œcuménisme qui néanmoins nous semble-t-il plus nécessaire que jamais. Cette nécessité d'une théologie œcuménique, je dirais qu'elle tient d'abord à la vocation même des communautés chrétiennes. Si Jésus a prié pour que tous soient un, il faut bien que la théologie, pour sa part, contribue à frayer des chemins vers une plus grande communion des Églises. La nécessité d'une théologie œcuménique tient aussi au fait que la pratique même du dialogue, à la mesure de ses avancées comme de ses reculs, nous renvoie à des questions essentielles qui ne touchent pas seulement l'Église, l'Eucharistie ou les ministères, mais qui touchent aussi bien l'anthropologie, la christologie, la théologie en général. La nécessité d'une théologie œcuménique tient enfin, et ce n'est pas le moins important, à la responsabilité des églises chrétiennes dans le monde. On ne peut nier que les séparations confessionnelles héritées du passé ne sont pas pour rien dans certaines formes de déchristianisation qui ont marqué l'Europe moderne et contemporaine. Et on ne peut pas nier non plus que dans d'autres continents également, elles ont souvent compliqué, sinon entravé, la réception du message évangélique. Une théologie œcuménique s'impose d'autant plus pour que les paroles et les actes de nos communautés chrétiennes gagnent en crédibilité au sein de nos sociétés. Les échanges théologiques entre des chrétiens de diverses églises doivent être en quelque sorte comme un laboratoire qui permette d'approfondir ensemble les questions essentielles de la foi, et par cette voie, ils doivent contribuer à frayer les chemins d'une communion ecclésiale qui fasse signe pour nos contemporains et qui, comme tel, rende témoignage à l'Évangile. C'est à cela que, modestement, notre chaire de théologie œcuménique voudrait œuvrer, et je laisse Anne-Cathy Grabert vous dire à présent comment ce dessein va prendre corps dès cette année à travers quelques propositions d'enseignement.
Merci Michel. Avant de vous présenter les quelques propositions d'enseignement de cette année, je tiens vraiment, comme Michel Fédou et avant lui Étienne Grieux, à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence, en particulier les représentants des différentes églises et confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, anglicanes, évangéliques également. Alors, une des premières démarches œcuméniques est très probablement la volonté de connaître les différentes traditions de nos églises, leur patrimoine spirituel, liturgique et théologique. Ce sera un des objectifs du cours intitulé « L'orthodoxie, perspectives historiques et contemporaines ». Ce cours propose une initiation à l'histoire et à la théologie de l'Église orthodoxe en étudiant quelques grands auteurs de cette tradition. Il sera donné par le théologien orthodoxe Goran Sekulovski, professeur de patrologie à l'Institut Saint-Serge. Il commencera très bientôt, dès le 25 octobre. À ce cours de la chaire de théologie œcuménique se greffe aussi celui d'Alexandre Signakov, recteur du séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève à Épinay-sous-Sénart, sur la spiritualité orthodoxe. L'intitulé de ce cours est une question. La spiritualité orthodoxe, une spiritualité monastique ? Point d'interrogation. Il a pour objectif d'étudier l'influence du monachisme sur la spiritualité chrétienne orientale, notamment sur l'évolution de la liturgie, la pratique du jeûne et de la prière. Il commencera celui-ci également très bientôt, le 18 octobre prochain. Enfin, comprendre le langage de l'art liturgique des icônes sera le troisième cours proposé en mars, sous le titre « L'art des icônes, les icônes des saints ». Il sera donné par Cyril Sologoub à partir de l'étude de représentations iconographiques de saints. Cyril Sologoub est laïc orthodoxe, enseignant-chercheur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Un autre aspect de la démarche œcuménique, nous l'avons entendu précédemment, est de ne pas hésiter à revisiter les controverses traditionnelles entre chrétiens, afin de mesurer le chemin parcouru, bien sûr, mais surtout afin d'accueillir les nouvelles perspectives qui ont été ouvertes par la réflexion théologique et le dialogue œcuménique. Un cours et une session proposeront cet itinéraire. Le cours débutera en janvier et sera donné par Michel Fédou et moi-même sur la figure de Marie, figure ayant souvent cristallisé, bien malgré elle, nos controverses. Il s'agit de Marie dans le dessein de Dieu, enjeu pour le rapprochement des Églises. Puis, une session sur la joie et la liberté du salut aura pour objectif d'accueillir la déclaration commune sur la justification, déclaration dont nous fêterons en 2019 les 20 ans. Trop souvent, les dialogues œcuméniques semblent, pour les croyants, et peut-être même pour les étudiants, renvoyer à des débats d'un autre temps, et surtout réservés à des spécialistes. Cette session voudrait montrer combien ce thème de la justification est une bonne nouvelle. Non seulement une bonne nouvelle, mais d'une brûlante actualité pour notre temps, notamment dans ses conséquences existentielles et éthiques. La session sera co-organisée par Anne-Marie Petitjean et moi-même, avec la participation de Michel Fédou, Alain Thomasset, ainsi que André Birmelet, théologien luthérien de l'Institut d'études œcuméniques de Strasbourg, un des instituts de la Fédération luthérienne mondiale. Ce thème de la justification, enfin, prendra visage, si l'on peut dire, avec un cours sur le théologien Dietrich Bonhoeffer, intitulé « Gratuité du salut » et responsabilité de l'homme. Ken Yamamoto, théologien protestant, enseignant à l'ICEO et travaillant à la Conférence des évêques de France, nous proposera de réfléchir en février avec Dietrich Bonhoeffer sur le lien indissociable entre la gratuité du salut et la responsabilité de l'être humain dans le monde. Telles sont donc les propositions d'enseignement de cette année. Vous pouvez retrouver la description de tous ces cours ou sessions dans le livret programme ou parfois dans des flyers déposés dans le hall dans le hall du Centre Sèvres. Et c'est avec joie à présent que j'accueille plus particulièrement Catherine, chère Clocas, qui est responsable des études à l'Institut supérieur d'études œcuméniques, l'ICEO, au Theologicum, où elle est chargée des cours de théologie œcuménique et de l'histoire du mouvement œcuménique. Elle est membre de la commission théologique de l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, membre également du conseil d'administration du Centre d'études œcuméniques Istina. Sa dernière publication traite de l'appel des églises à la conversion confessionnelle à partir du travail du groupe des Dombes. Catherine Schörk-Lucas est engagée dans l'œcuménisme théologique, vous le voyez, mais elle l'est aussi dans l'œcuménisme pratique. En effet, elle a été déléguée au Forum chrétien mondial à Bogota en avril dernier et participera au premier Forum chrétien francophone à Lyon fin octobre. C'est vraiment une joie de t'accueillir et de t'avoir parmi nous, bien sûr, ce soir, pour traiter du thème que nous avons retenu ensemble. Il concerne évidemment le dialogue œcuménique, mais plus précisément en considérant et en précisant ses enjeux pour l'ensemble de la théologie chrétienne. Donc c'est avec joie, une fois encore, chère Catherine, que je te laisse la parole.
Chers collègues, chers amis, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier Anne-Cathy Graber et Michel Feydeau pour cette invitation que j'ai la grande joie à honorer ce soir avec Frédéric Chavel. Merci de nous avoir associés au lancement de la chaire de théologie œcuménique au Centre Sèvres. Sur l'invitation à cette soirée inaugurale, nous lisons et je cite « La préoccupation de la communion ecclésiale est essentielle à la vie chrétienne et le désir de l'unité doit marquer tous les champs de la théologie. La théologie devrait assumer pleinement et de manière explicite et dynamique ses responsabilités pour l'unité chrétienne. En effet, toutes les ressources de la théologie devraient être mises au service de l'unité. En même temps, les résultats et les acquis du dialogue œcuménique devraient être reçus et incorporés à toutes les dimensions de l'activité théologique des Églises. Comment la pratique du dialogue œcuménique est-elle féconde pour la théologie elle-même dans la situation des Églises, situation actuelle des Églises? Pour réfléchir ensemble ce soir, je vais procéder en trois étapes. D'abord, qu'est-ce que faire de la théologie? Deuxièmement, quels sont les fruits de la pratique du dialogue œcuménique? Comment ces fruits pourraient-ils nourrir la théologie dans la situation actuelle des Églises? Et troisièmement, en guise de conclusion, quelle devrait être la priorité accordée à la quête de l'unité visible? Donc tout d'abord, qu'est-ce que faire de la théologie? En 1078, Anselme de Canterbury élabore une théologie au cœur de la vie bénédictine et ses pratiques ascétiques et contemplatives dont nous gardons une définition célèbre, Fides quaerens intellectum, la foi en quête de son intelligence. Cette formule, qui traversa les siècles, nous permet de préciser quelques traits déterminants de la démarche théologique. Fides, la foi. Tout d'abord, la foi, donnée et reçue par la grâce de Dieu, est à l'origine de la quête théologique chrétienne. L'acte de foi consiste à croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un choix existentiel qui relève de la confiance, qui implique une relation vitale qui nous relie les uns aux autres grâce à l'écoute de la parole de Dieu en Église. L'acte de foi, de croire en, apporte de la vie. Tout comme pour d'autres sciences, une raison d'être de la théologie est bien d'améliorer et faire fructifier cette vie cette vie en Dieu. Intellectum, l'intelligence. On le traduit en anglais par understanding. L'horizon de la théologie ne se limite pas à sa dimension rationnelle et scientifique, qui doit bien sûr être respectée et mise en œuvre au premier plan. La visée de la théologie s'étend aussi à une forme de discernement qui est de l'ordre de l'amour et de la sagesse, qui grandit avec le temps, comme l'entente entre de vieux amis. Pour y parvenir, la théologie prend appui d'abord sur les Écritures saintes et se construit en dialogue avec les traditions théologiques, les cultures du passé et du présent et les acquis d'autres disciplines. Elle mobilise ainsi les ressources de la raison, de l'imagination, de la passion dans cette quête de la vérité. Et quarens, le participe présent du verbe, qui signifie chercher, aller en quête. Ce terme nous indique la nature de la recherche théologique, une quête toujours in via, qui accepte d'être secouée en toute humilité, car le mystère de Dieu est sans limite et nous dépasse. Cette quête n'est pas marche solitaire, mais au contraire, un pèlerinage à la fois personnel et ecclésial, joyeux, vigilant, bienveillant et attentif aux signes des temps, sous la conduite du Saint-Esprit, une recherche commune de la vérité, un service commun du corps du Christ, et une commune dévotion au Dieu unique. La Commission théologique internationale de l'Église catholique décrit ainsi cette quête. L'un des critères de la théologie catholique est qu'elle doit chercher la sagesse de Dieu, qui est folie pour le monde, et y trouver ses délices. Elle devrait s'enraciner dans la grande tradition de sagesse de la Bible. Elle devrait se relier aux traditions de sagesse de l'Orient comme de l'Occident chrétien et chercher à établir un pont en direction de toutes les traditions de sagesse. Elle doit être attentive à ce que l'Esprit dit aux Églises à travers la science des saints. La théologie suppose un effort vers la sainteté et une conscience chaque jour plus aiguë de la transcendance du mystère de Dieu. La simplicité profonde de la définition de théologie selon Karl Barth, nous interpelle aussi. La théologie est et doit redevenir sans cesse une science modeste, libre, critique et joyeuse. L'étonnement constitue la saine racine de la théologie. Tournons-nous maintenant vers la sagesse, qui est la pratique du dialogue écuménique, notre deuxième étape. Quels sont les fruits de la pratique du dialogue écuménique? Comment ces fruits pourraient-ils nourrir la théologie dans notre contexte actuel? Je vais procéder en développant quatre propositions qui articulent la théologie et l'écuménisme spirituel, ensuite l'écuménisme doctrinal, troisièmement le ministère de réconciliation, et enfin l'horizon missionnaire de la recherche de l'unité visible. D'abord, remarquons que notre question de départ précise la fécondité de la pratique du dialogue écuménique. En effet, la dimension performative et transformative de l'écuménisme est fondamentale. Elisabeth Parmentier, théologienne luthérienne, l'exprime ainsi dans une définition récente. L'écuménisme n'est pas une rêverie idéalisante, mais une exploration méthodique des identités, un chemin d'expérimentation, d'essais et d'erreurs, de création de ressources pour une pédagogie de l'altérité. La mise en valeur de la pratique, de l'expérimentation, du droit à l'erreur, de l'acceptation du provisoire, invite la théologie, via les théologiens, à prêter une attention particulière à sa propre dimension performative, à ses propres fins, ainsi qu'aux conditions réelles de sa pratique. Notre première proposition concerne l'œcuménisme spirituel. La signification de l'œcuménisme spirituel encourage la théologie à explorer ses propres racines et besoins mystiques et ascétiques et à recevoir avec sérieux les questions qui émergent des pratiques liturgiques et spirituelles. La prière des chrétiens rassemblés constitue un acte fondateur et fondamental pour l'œcuménisme, car dans la louange en commun, nous respirons et rendons visible l'unité que nous partageons grâce à notre baptême en Jésus-Christ. Paradoxalement, c'est en premier lieu lors de la célébration de la Sainte Cène, de l'Eucharistie ou de la divine liturgie que nous vivons les divisions de son corps. Qu'elle soit célébrée dans un cadre monastique comme à Thésée, en contexte global et local comme la Semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens, ou bien pour marquer un événement symbolique comme la prière de commémoration du début de la réforme protestante à Lund en 2016, la prière chrétienne commune est intrinsèque à l'œcuménisme. Lors de sa visite à Genève pour les 70 ans du Conseil œcuménique des Églises en juin dernier, le pape François l'a exprimé simplement. La prière est l'oxygène de l'œcuménisme. Sans prière, la communion est asphyxiée et n'avance pas parce que nous empêchons l'esprit de la pousser en avant. Ce fruit de l'œcuménisme spirituel appelle la théologie et les théologiens à réexaminer le rôle de la prière commune dans leur discipline, particulièrement en ce qui concerne la formation. Prêtons-nous suffisamment d'attention à l'apprentissage de la prière? Il invite aussi à des analyses plus profondes des pratiques qui surgissent et transforment notre paysage social et ecclésial. L'émergence des méga-church et leur liturgie créative, ou les grands rassemblements de guérison, par exemple. Donc nous venons de souligner combien l'œcuménisme spirituel est constitutif de la quête de l'unité et pourrait orienter le regard théologique davantage vers le champ des pratiques. Maintenant, la deuxième proposition, venons-en à l'œcuménisme doctrinal, sa méthodologie et sa réception. Les acquis et les lacunes de l'évolution méthodologique du dialogue doctrinal encouragent la théologie à interroger de nouveau ses propres langages et styles pour ses publics différents. Poursuivons avec la métaphore du langage pour tracer les développements méthodologiques du dialogue doctrinal. Au début du dialogue, les interlocuteurs d'églises différentes ont dû commencer par l'écoute, pour se faire l'oreille aux langues des autres, aussi bien des langues de prière et de louange que des langues de formulation doctrinale. Ils se sont rappelés qu'ils partageaient une même grammaire normative, les Écritures saintes. Après ce premier temps d'initiation linguistique, il a été possible d'avancer le dialogue bilatéral par une méthode de comparaison, de juxtaposition de langues. Le dialogue multilatéral, en particulier celui porté par la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises, prend la méthode de convergence, où les interlocuteurs d'églises très diverses cherchent à forger ensemble une nouvelle langue pour exprimer la nature et la mission de l'Église, par exemple. Quant au dialogue bilatéral, notamment celui entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, il met en œuvre la méthode du consensus différencié, où les deux interlocuteurs confessent ensemble dans une langue commune, tout en reconnaissant la légitimité et la valeur de l'accent de l'autre. Et au passage, je vous remercie pour votre patience avec le mien. La déclaration commune précise qu'à la lumière de ce consensus sont acceptables les différences qui subsistent dans le langage, les formes théologiques et les accentuations particulières dans la compréhension de la justification. Cependant, bien que ce consensus dans des vérités fondamentales doit, et je cite, « avoir des conséquences et trouver sa confirmation dans la vie et l'enseignement des Églises », cette langue doctrinale, aux accents différents, peine encore à se traduire en lingua franca, sur le terrain, au cœur des pratiques chrétiennes. C'est là, dans cette œuvre d'interprète, que la théologie est attendue aujourd'hui. D'abord, retournons à la grammaire normative, les Écritures saintes et leur statut pour l'enseignement et la vie des Églises. Par exemple, comment comprendre les langues d'éthique chrétienne en dissonance, alors qu'elles se réfèrent toutes à la même grammaire? Les accents particuliers en éthique pourraient-ils être assumés par le consensus différencié? Le dialogue œcuménique doctrinal montre aussi la fécondité de l'apprentissage linguistique. De même, la théologie et les théologiens se doivent encore et toujours d'apprendre de nouvelles langues, qu'elles soient celles des scientifiques de la NASA, celles du rap, celles du Twitter ou bien celles des philosophies féministes, pour être fidèles à l'élan apostolique, pour faire résonner la parole aux oreilles des nations. Ceci suppose de savoir bien identifier et connaître ses publics et ajuster son langage en conséquence. Il me semble que la traduction du langage du dialogue doctrinal pour le public des jeunes générations reste un défi capital pour le mouvement œcuménique. De plus, le consensus dans des vérités fondamentales sur la justification entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique ouvre sur un regard transformé sur les événements du XVIe siècle. Et je cite, « les condamnations apparaissent dans une lumière nouvelle ». En effet, cette lumière nouvelle continue de briller dans les processus de dialogue, comme le projet de raconter ensemble l'histoire de l'accord du conflit à la communion. Nous arrivons maintenant au troisième champ de réflexion sur le ministère de réconciliation. L'accord du conflit à la communion et d'autres, comme guérir les mémoires, se réconcilier en Christ entre luthériens et mennonites, ont permis des pas significatifs de pardon grâce à leur relecture commune de l'histoire dans l'esprit du ministère de réconciliation annoncé dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. La quête œcuménique de communion ecclésiale nous a instruits. Il ne peut y avoir unité visible du corps sans conversion et repentance, nourrie par la relecture commune de l'histoire des divisions et des blessures. Le ministère de réconciliation que le mouvement œcuménique a la grâce de porter peut nous aider aussi à éclairer la situation actuelle. La crise d'abus sexuels dans l'Église catholique et dans d'autres églises, à un degré moindre, exige elle aussi une relecture commune pour raconter et reconnaître les violences et négligences, les abus de pouvoir, le mal, par un récit qui donnerait droit aux voix des victimes, voix qui n'ont pas encore été assez entendues et sans lesquelles la vérité n'adviendra pas. La confiance trahie ne saurait être rétablie par des excuses et des condamnations, aussi ferventes soient-elles, sans acte de repentance visible qui se concrétise en transformation systémique, le corps ne pourra guérir. Et si un membre souffre tous, nous souffrons avec lui. Acceptons de soigner cette maladie grave du corps dans un cadre œcuménique afin de mobiliser tous les dons de l'Esprit du Christ à son Église. Nous arrivons maintenant au quatrième et dernier point sur l'horizon missionnaire du dialogue œcuménique. L'horizon missionnaire et évangélisateur de la pratique du dialogue œcuménique rappelle à la théologie sa visée première. Elle ne peut être ni pratique individualiste, ni discours fermé sur lui-même. Comme nous l'avons dit en introduction, elle est au service de la vie. Le message de l'Assemblée fondatrice du Conseil œcuménique des Églises en 1948 énonce son engagement missionnaire et sa reconnaissance que l'unité de l'Église viendra du pouvoir de Dieu. Et je le cite. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de bannir de la terre le péché et la mort, d'achever l'unité de la Sainte Église universelle, d'écraser les armées de Satan. Mais c'est au pouvoir de Dieu. Et il nous a donné à Pâques l'assurance que ses desseins seraient accomplis. Mais nous pouvons, sur la terre, par nos actes d'obéissance et de foi, dresser des signes annonciateurs de la dernière victoire. Consacrons-nous à toute tâche immédiate et dressons ainsi parmi les hommes ces signes que leurs yeux pourront voir. Pour aider à mener à bien cette responsabilité missionnaire, la théologie a un rôle indispensable de discernement évangélisateur. Où se situent les tâches immédiates de notre temps? Quels actes de foi signifiant la victoire du Christ sont visibles pour les yeux des hommes et des femmes de notre temps? Quel type de communication pour dresser et rendre visibles ces signes pour le monde? Pour conclure, quelle priorité accorder à la quête de l'unité visible? À Pâques 1983, un an avant sa mort, le théologien jésuite Karl Rahner publia avec son collègue Heinrich Freis 8 thèses sur l'unité des Églises. L'unité des Églises, une réelle possibilité. Son appel prophétique a accordé la plus haute priorité à la quête de l'unité chrétienne dans la pratique théologique et pastorale des Églises, retentit avec autant de force qu'il y a 35 ans. Karl Rahner soutient que la séparation des Églises est un scandale grave qui nuit à la crédibilité des Églises et menace l'existence même du christianisme. Il s'inquiète que des responsables des Églises sous-estiment l'urgence de l'unité et trouvent toujours de très bonnes raisons d'investir leurs énergies ailleurs. Il introduit ainsi les 8 thèses, et je le cite. L'unité de l'Église est le commandement du Seigneur de l'Église. Qui demandera compte aux chefs des Églises si, en cette question, ils ont effectivement fait tout ce qui était en leur pouvoir? Face au contentement avec le statu quo ecclésial et œcuménique, Rahner évoque le kairos qui est l'aujourd'hui et maintenant. Je le cite. Ne sommes-nous pas nous-mêmes le temps, comme le dit saint Augustin? Et le temps ne serait-il pas ce que nous en faisons, tel que nous le façonnons? Et combien de temps donnerons-nous ou pas encore? Pouvons-nous penser comme auparavant, en termes de siècles? Laisserons-nous courir le temps? Et nous aussi, combien de temps donnerons-nous ou pas encore? Ce pas encore qui nous apprend à vivre l'attente et l'échec, qui fait croître notre désir d'unité. Combien de temps? Enfin, Karl Rahner le rappelle, et il y insiste, et c'est le plus important, le chemin d'unité déjà parcouru ensemble, cause de joie et de gratitude. La création de cette chaire de théologie œcuménique au Centre Sèvres, c'est aussi une occasion de se réjouir et de rendre grâce pour toutes les personnes qui nous ont précédés sur ce chemin. Qu'il me soit permis de formuler un souhait pour la chaire de théologie œcuménique, chère Anne-Cathy et Michel, que vous ne cessiez d'être étonnés et que cette chaire fasse découvrir et vivre la passion de l'unité du corps du Christ que vous partagez si bien tous les deux avec nous. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Catherine Cherche-Lucas, pour cette intervention. Merci d'avoir indiqué des champs dans lesquels se vérifie déjà la fécondité du dialogue œcuménique, hein, depuis l'expérience de la prière jusqu'à l'annonce de l'Évangile, hein, l'oraison missionnaire, en passant par la réconciliation des mémoires, la guérison des blessures héritées du passé, et bien sûr aussi par le travail doctrinal. Merci aussi d'avoir indiqué des priorités qui s'imposent aujourd'hui au dialogue œcuménique, et nous avons particulièrement entendu cette urgence, hein, à laquelle vous nous avez renvoyé, hein, combien de temps encore avant la pleine communion des Églises. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers le pasteur Frédéric Chavel. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Le pasteur Frédéric Chavel a été pasteur de l'église luthérienne Saint-Jean dans le 7e arrondissement. En 2016, il a soutenu une thèse de doctorat sur le thème « La référence à l'expérience dans les travaux de Gerhard Ebeling et d'Eberhard Jüngel, études critiques et perspectives théologiques ». Et depuis un an, vous enseignez la théologie dogmatique à l'Institut protestant de théologie Bouvard-Arago. Vous êtes en même temps assesseur du directeur de l'Institut supérieur d'études œcuméniques, le père Luc Forestier. Je souligne aussi que vous avez eu, entre autres, la responsabilité d'être, en 2013, je crois, délégué à la 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Pushan, en Corée du Sud. Le pasteur Frédéric Chavel est souvent intervenu sur des questions de théologie œcuménique ces dernières années, y compris d'ailleurs ici même. Pasteur engagé dans l'œcuménisme, en même temps que théologien de métier, il est donc très bien qualifié pour intervenir sur ce sujet à son tour, le dialogue œcuménique, enjeu pour la théologie chrétienne. Je vous laisse la parole.
Merci, Monsieur le Président, cher Michel, chère Anne-Cathy, chers auditeurs et collègues, en grande partie pour beaucoup d'entre vous. Je vous remercie particulièrement de cette invitation et je me réjouis de pouvoir apporter une toute petite contribution à cette fondation de la chaire de théologie œcuménique. Nous sommes ici avec cette chaire non pas dans un projet totalement nouveau, mais dans l'explicitation d'une conversation qui est en cours chez vous depuis longtemps. Il suffit de voir tout, enfin, je veux le citer en forme d'hommage, tout le travail qui a été fait via les recherches de sciences religieuses, les si nombreux membres du groupe des Dombes parmi les membres du Centre Sèvres, tous les séminaires en commun qui ont été faits, les discussions, les travaux auxquels ont participé mes prédécesseurs à l'IPT. Je ne suis moi-même que effectivement le dernier venu et je peut-être que je vais essayer d'incarner ce soir la suite de tout ce travail qui a été fait. Vous venez de le dire, Michel, nous nous sommes déjà vus ici en septembre 2016. Ça faisait moins d'un an à l'époque que j'avais pris ma chaire à l'IPT. La question était en fait en apparence exactement la même. Ce soir, nous intervenons sur le dialogue œcuménique enjeu pour la théologie chrétienne et en septembre 2016, il s'agissait de parler des enjeux théologiques du dialogue œcuménique. Alors, c'était François Boédek et vous-même qui m'aviez reçu. Alors, pourquoi revenir 2 ans après, en apparence, exactement sur le même thème? Première hypothèse, le Centre Sèvres est tellement vivant qu'au bout de 2 ans, il y a eu un tel renouvellement des personnes qu'il n'y a plus personne dans la salle qui était ici il y a 2 ans. Autre hypothèse, vous étiez tellement en décalage avec ce que je vous ai dit que par charité, vous me permettez de tenter de dire autre chose sur le sujet. Je suis ici en session de rattrapage. Plus sérieusement, je pense plutôt, et c'est l'évidence en fait, que l'intitulé de ce sujet est tellement vaste qu'il peut inclure des approches extrêmement différentes, donc à chaque fois on n'en touche qu'une toute petite partie. Il y a 2 ans d'ailleurs, il y avait un sous-titre, il s'agissait de parler des enjeux théologiques du dialogue œcuménique à la lumière de l'anniversaire de la réforme, ce qui était le contexte de l'époque, ce qui fait que nous étions plutôt partis de ce contexte d'un écuménisme en train de se faire dans une situation historique donnée, et à l'intérieur de cette situation, de voir quelles questions théologiques y étaient en travail, tandis que ce soir, si je comprends bien, il s'agit plutôt de l'inverse, à savoir de se concentrer sur le versant théologique de la même question, donc vers les questions d'épistémologie de la théologie, en voyant ce que l'écuménisme y apporte comme indication. Donc, le sujet étant vaste, je vais être très rapide dans mon propos, à savoir que je vais parcourir plusieurs points en laissant une insatisfaction d'une certaine manière. Chacun des points que je toucherai seront autant de propositions, de travaux que nous pourrons justement mener dans les années à venir ensemble. J'aurai 3 points. Premièrement, je reviens sur la notion même de dialogue œcuménique avec les différents registres que cette notion peut recouvrir. Deuxièmement, j'en viendrai à l'aspect finalement le plus central dans la question de ce soir, de l'épistémologie de la théologie et de l'impact que peut y avoir le dialogue œcuménique. Et puisque je suis ici venu de mon institut protestant théologique, j'aborderai cette question à ma manière, en suivant en tout cas les contours des grands départements que nous donnons à la théologie dans la tradition des facultés protestantes, dogmatique, historique, pratique, biblique. Puis dans un 3e point, je dirai un mot sur quelques conversations qui sont en cours aujourd'hui sur la poursuite du dialogue œcuménique. Donc tout d'abord, différents registres de la notion de dialogue œcuménique elle-même. La notion de dialogue œcuménique peut être prise en un sens extrêmement général, extrêmement englobant, comme c'est par exemple le cas dans le Directoire œcuménique de 1993, c'est-à-dire poser la question du dialogue œcuménique comme une question concernant l'ensemble des églises, l'ensemble de l'Église. C'est dans ce cas-là, à travers le dialogue œcuménique, l'ensemble de ce qui est à mettre en œuvre pour une conversion œcuménique de nos églises, pour qu'elles soient plus fidèles à leur vocation missionnaire. Mais tant qu'on en reste à cet usage très général du terme, dialogue œcuménique, toute la question qui se pose est de savoir comment faire pour qu'il y ait véritablement dialogue dans le dialogue, car il ne suffit pas de se rassembler et d'annoncer un dialogue pour que le dialogue ait lieu. Je ne vais pas m'étendre trop, mais j'ai malheureusement eu, vous avez évoqué quelques expériences de rencontres œcuméniques internationales auxquelles j'ai pu participer, j'ai eu quelques expériences où les personnes se rassemblaient dans une unanimité de façade, et lorsqu'il s'agissait véritablement de creuser dans la vérité les différences, eh bien, on se repliait, on était content de s'être rencontrés, mais on n'avait pas dialogué. Donc cela existe, et il faut donc, à l'intérieur de la notion trop large de dialogue œcuménique comme simple ouverture de rencontre, avoir un sens plus fin du dialogue, et c'est ce que cherchent toutes à leur manière les différentes instances de dialogue œcuménique. Puisque le dialogue suppose tellement de registres que toutes ces instances sont nécessaires, chacune avec leur statut, leur force, leur faiblesse. Bien sûr, le dialogue bilatéral et le dialogue multilatéral. Les rencontres et dialogues qui se font largement dans le peuple de Dieu, mais aussi les dialogues d'experts, théologiens. Ensuite, les dialogues œcuméniques au sens des accords ecclésiaux, où les églises elles-mêmes, avec toute leur institutionnalité, entrent en dialogue. Et puis, il y a aussi cette variété des registres du dialogue entre les dialogues à statut privé, le groupe des Dombes, les dialogues par mandat, les commissions auxquelles vous avez pu participer, Michel, les accords ecclésiaux avec un engagement d'église, comme l'accord d'Augsbourg portant sur la déclaration commune de la doctrine de la justification. Au travers de la variété de ces types de dialogues, il me semble que l'on peut dessiner une sorte de continuité historique, ou plutôt de parallélisme entre différents chemins qui ont été pris, où le dialogue bilatéral doctrinal a pris une consistance particulièrement importante. La notion de dialogue, me semble-t-il, a été prise particulièrement au sérieux, plus dans le dialogue bilatéral que dans le dialogue multilatéral, et plus dans le dialogue doctrinal que dans les autres formes de dialogue théologique ou de dialogue en Église en un sens plus vaste. Pourquoi est-ce que je pose cette hypothèse de lecture historique? Alors, il faudrait évidemment le développer pour que la démonstration soit claire et détaillée, mais je donne quelques indications, aussi bien dans l'écuménisme et le dialogue écuménique interne au protestantisme. On peut constater qu'il y a, à large trait, quelque chose comme une première phase de rencontre, comme par exemple dans la conférence d'Édimbourg en 1910, ou les premières assemblées du Conseil écuménique sous l'aspect de leur participation protestante, auxquelles succèdent des dialogues plus fins dans un registre bilatéral et doctrinal, comme par exemple on a à Leuenberg. Je me permets d'associer la concorde de Leuenberg à du bilatéral, même si c'est un peu plus que du bilatéral, c'est du bilatéral étendu. Et ensuite seulement, dans un troisième temps, il y a un impact en Église de ce qui a été fait dans un dialogue doctrinal, comme on peut constater par exemple dans l'union de l'Église protestante unie de France en 2013. On voit donc dans cette première histoire que je rappelle que un certain dialogue bilatéral en 1973 est un point de passage à travers lequel on atteint un dialogue en Église plus abouti, mais 40 ans après, en 2013, dans le cas spécifique français. Cette histoire que je viens d'évoquer dans le cas protestant, on pourrait trouver un parallélisme avec ce qui se passe dans l'évolution du dialogue luthéro-catholique, puisque le rapport de Malte, dans un premier temps, et la première phase du dialogue international luthéro-catholique est sur le registre de la rencontre, tandis que dans la phase qui aboutit à la déclaration commune sur la doctrine de la justification, on est véritablement plus sur un dialogue doctrinal. Et ce dialogue doctrinal, à nouveau, réouvre vers un accord à un niveau ecclésial plus large, comme c'est le cas avec les événements des dernières années. Cela pose une question sur la doctrine. Comment se fait-il que la doctrine ait pu être, de cette manière-là, un point de passage? En tout cas, dans plusieurs histoires parallèles de développement écuménique de ces 50 dernières années. Alors, en première approche, c'est bien sûr flatteur pour les dogmaticiens qui vont, de manière primaire, se réjouir d'avoir été utiles. Mais en fait, évidemment, c'est désastreux pour l'interdisciplinarité de la théologie. Car si le travail doctrinal prétend, de cette manière, être utile dans une parenthèse d'exclusion des autres registres de la théologie, eh bien, il ne faut pas s'étonner que quelques années après, et c'est ce qui se passe dans la perception de l'écuménisme en ce moment, que l'on reproche, après coup, à ce travail doctrinal d'avoir été hors sol, au point que, par exemple, des rouages extrêmement importants comme l'instance foi et constitution voient leur place doctrinale contestée dans la structure conseil écuménique des églises. Et on pourrait trouver toutes sortes de parallélismes. Donc, une insistance sur le dialogue bilatéral doctrinal qui est, me semble-t-il, très suspecte. C'est pourquoi il faut, à mon sens, nous placer devant la question d'une nouvelle méthode de dialogue théologique écuménique qui puisse être dans une meilleure interdisciplinarité. On dit souvent, là encore dans ces relectures de l'écuménisme, qu'un dialogue de la charité très ouvert a succédé à un dialogue de la vérité, que l'on a souvent associé justement à cette phase de concentration doctrinale, et qu'aujourd'hui on attendrait une troisième phase. À ce sujet, à propos de ces deux notions, dialogue de la charité, dialogue de la vérité, je remarque que ces mêmes deux notions, dialogue de la charité, dialogue de la vérité, ont été reprises pas seulement pour qualifier la recherche œcuménique, mais aussi le dialogue interreligieux, puisque Benoît XVI, en 2009, dans Caritas in Veritate, donne une encyclique concernant l'interreligieux. Alors, quelle est la question posée pour nous, si finalement nous n'avons pas d'autre caractérisation pour le dialogue proprement œcuménique entre Églises chrétiennes que les qualifications que nous avons plus globalement pour le dialogue interreligieux? Cela pose la question de nous demander si notre méthode de dialogue œcuménique a suffisamment porté sa dimension spécifiquement chrétienne et fondée en Christ, celle d'un dialogue non pas simplement dans la charité ou dans la vérité qui pourraient être des vertus humaines, mais d'expliciter comment ces vertus, au sens où l'on en l'entendons là, sont des vertus fondées dans une participation au Christ. J'en viens au deuxième point, l'impact de ces dialogues œcuméniques sur la théologie, sa constitution scientifique et ses méthodes. Je repartirai, puisque l'histoire nous a fait passer par là en quelque sorte, je repartirai de l'aspect du dialogue œcuménique dans son versant dogmatique et doctrinal. Il ne faut pas refuser de se réjouir qu'il y a eu effectivement sur ce registre des avancées. Je citerai particulièrement, puisqu'on ne peut pas développer les choses, mais je citerai particulièrement comme point marquant de cette quête, un dialogue qui avait eu lieu ici il y a 10 ans, et publié dans vos recherches de sciences religieuses, entre Hervé Le Grand, Herméneutique et vérité des énoncés dogmatiques en contexte œcuménique, auquel avait répondu Hans Christoph Ascani, le statut des énoncés dogmatiques. Donc ça fait au moins plus que 10 ans que l'on sait, que l'on peut porter avec un certain sentiment de bon aloi de travail accompli, qu'effectivement il y a eu des acquis en méthode de théologie dogmatique. Alors quels sont-ils? C'est un certain consensus qui se fait entre nous, entre ce qui peut être identifié avec la théologie de George Lindbeck, sur le fait que notre doctrine échappe à une dialectique trop insuffisante entre subjectivité et objectivité. Certes, le registre doctrinal n'est pas purement objectif, il n'est pas purement subjectif, mais il est une sorte de registre culturel intermédiaire par lequel on peut développer un langage commun qui n'est ni le langage des uns, ni le langage des autres, mais qui est un langage à travers lequel les uns et les autres se comprennent. Cela rejoint d'ailleurs une démarche, une méthode œcuménique qu'a annoncé la Fédération luthérienne mondiale, mais méthode œcuménique qui en fait est largement dogmatique, où on considère, et pour cela je vous renvoie au livret Lutherans in Ecumenical Dialogue, édité par cette fédération, une méthode œcuménique où l'on constate qu'il y a d'abord le besoin de s'entendre, le besoin de s'écouter en laissant surtout l'autre parler de lui-même sans se mettre à parler sur lui, où l'on tente ensuite d'arriver au stade de la convergence, premier stade de l'œcuménisme, premier stade posé dans l'écoute, stade de la convergence où l'on finalement repère ce que nous avons en commun, ce que l'on pouvait nous dire assez vite dans un langage d'unanimité. À quoi succède le moment non plus de la convergence mais du consensus, car si l'on converge avec les mêmes mots sur ce sur quoi l'on est unanime, il y a besoin d'un consensus différencié à propos de ce sur quoi l'on diffère et à propos de ce sur quoi il y a une plurivocité. Ce moment du consensus différencié, il a été et il sera encore abondamment commenté, particulièrement cette année où nous allons vivre le 20e anniversaire de la Déclaration commune sur la doctrine de la justification, mais précisément parce que ce consensus différencié a été développé comme un objet de méthode spécifiquement dogmatique, essentiellement dogmatique en tout cas, cela ouvre la question troisième phase de l'œcuménisme qui est celle de la réception. Et oui, en effet, l'œcuménisme du consensus différencié, objectif typiquement dogmatique, bute sur ses limites, puisque actuellement nous nous demandons dans quelle mesure, sur tel ou tel lieu théologique précis, la méthode du consensus différencié peut ou pas être étendue. Et cette question n'est pas aisée à développer. Elle l'est d'autant moins que même parmi les dogmaticiens, il arrive que l'on oublie cet acquis, que l'on oublie l'acquis de la fonction régulatrice d'un langage commun. Il a pu m'arriver, à ma grande déception, mais je dois le reconnaître, il a pu m'arriver même au sein de l'Institut protestant de théologie, Paris-Montpellier, comme ça je brouille les pistes, il a pu m'arriver de discuter avec tel ou tel collègue systématicien qui m'exprimait que pour lui, la recherche d'un langage dogmatique technique n'était pas une de ses quêtes. Il semblait se satisfaire du développement très subjectif et du coup qui penche fortement vers le relativiste de langages différents pour les uns ou pour les autres. Mais il me semble que si l'on se résigne à cela, si l'on se résigne à ne pas développer un langage commun, c'est toute la quête de l'unité, mais surtout plus gravement dans le sens où cela concerne tout le monde, c'est la dimension réconciliatrice des églises chrétiennes qui est manquée. En effet, pour aller dans toute cette dimension réconciliatrice réelle que doit, selon moi, porter réellement la dogmatique, il faut étendre, ou plutôt rappeler, comment la dogmatique n'aurait jamais dû s'isoler des autres disciplines. Et je cite à ce sujet un mot de Hans-Christoph Ascani dans cet article que je citais il y a un instant, qui disait finalement, à l'issue de son dialogue avec Hervé Le Grand, que la plus grande différence entre luthériens et catholiques n'était pas la différence doctrinale, mais que c'était, il le rassemblait dans une formule, l'odeur de l'encens. C'est très sérieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire évidemment que tous les développements doctrinaux sont en fait mal compris s'ils ne sont pas porteurs de toute une culture d'Église, de toute une histoire d'Église, et tant qu'ils ne sont pas situés précisément dans ce contexte-là. Donc nous allons sortir de la dogmatique, enfin, et aller vers le domaine de la théologie historique, sur lequel se placent beaucoup d'attentes. Car évidemment, en méthode, c'est de l'histoire que l'on peut attendre de redécouvrir, redéployer autour des énoncés dogmatiques, pour éviter leur effet de dessèchement, une vraie dimension culturelle, sociale, éthique du dogme. Je me permettrai d'être particulièrement bref sur ce point-là, car c'est précisément celui qui a été le mieux développé ces dernières années, particulièrement grâce au document point de repère du conflit à la communion. Et je vous renvoie, pour ceux qui souhaitent quand même une référence historique, au résultat, à mon avis très intéressant, d'un récent colloque à l'Institut catholique de Toulouse, autre contexte certes, à l'Institut catholique de Toulouse, où il y avait l'an dernier un colloque sur An 500 après Luther, où nous avons pu croiser des historiographies protestantes et catholiques avec des résultats, me semble-t-il, intéressants à paraître cette fin d'année chez Bayard Press. Il y a quand même une attente en ce qui concerne la question des historiens, et il me semble, c'est une option que je pose, qu'un des enjeux au niveau de la méthode historique est d'intégrer peut-être de manière plus consciente et plus claire la confessionnalité de nos approches historiques. Alors attention, je ne cherche certainement pas à plaider pour un retour à une histoire confessionnalisée. Mais au contraire, pour mieux sortir des prismes du confessionnalisme dans la lecture de l'histoire, inciter, aider à ce que chaque historien puisse trouver, en tout cas chaque historien en faculté de théologie, puisse trouver une manière d'expliciter la manière dont il articule son travail historique dans sa scientificité avec une histoire qu'il porte. Cela nous mène, et je développerai maintenant cette question de l'odeur de l'encens, la nous mène au registre de la pratique. Sur le registre de la pratique, on peut constater, me semble-t-il, que l'on peine à profiter des enrichissements du consensus différencié doctrinal. Autrement dit, c'est d'une part, bien sûr, la faute des dogmaticiens de ne pas avoir réussi à rendre ce registre d'immédiatement traduisible et compréhensible dans les autres formes de théologie. Mais il y a tout de même aussi un manque du côté de ceux qui, ayant considéré que le consensus différencié dans sa forme doctrinale et dogmatique n'a pas produit tous les effets considérés, il faudrait tenter d'autres voies sans vérifier qu'elles s'inspirent de ce qui a été fait dogmatiquement. Pour donner un exemple et pour ne pas rester dans l'abstraction, je peux, par exemple, donner cette indication sur le mot d'ordre de l'écuménisme du sang, qui est développé ces derniers temps dans la théologie catholique et avec notamment la parole du pape François. Je cite ici, il y aurait beaucoup d'occurrences possibles, mais je cite en l'occurrence une conférence du cardinal Courtecor donnée à Strasbourg sur les défis de l'écuménisme 50 ans après Vatican II. Voici ces termes. Nous pouvons voir dans l'écuménisme des martyrs le cœur de tout effort écuménique visant l'unité de l'Église, comme le pape François l'a exprimé en ces termes marquants, « Si l'ennemi nous unit dans la mort, qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie ?» En effet, n'est-il pas honteux, la citation se poursuit, que les persécuteurs des chrétiens aient aujourd'hui une meilleure vision écuménique que celle que nous avons, nous chrétiens, car ils savent que les chrétiens sont profondément une seule chose. Parce que la souffrance de si nombreux chrétiens dans le monde d'aujourd'hui représente une expérience commune, l'écuménisme du sang est même, pour le pape François, le signe le plus évident de l'écuménisme aujourd'hui. Alors je ne vais pas entrer dans le commentaire de détail de cette citation, même si évidemment il faudrait en toute rigueur. Je ne vais pas me mettre à démêler ce qui est un effet, ce qui est véritablement l'intention du pape François et ce qui est la relecture du cardinal Courtecor. Il faudrait aussi le faire. Je vais juste vous citer deux points d'étonnement à mon sens. Alors que je consonne totalement à cette importance d'un dialogue écuménique où s'investit la théologie pratique pour aboutir à des gestes médiatiques et pour aboutir à une prise en compte de dimensions très sociales, telles que la question du martyr dans la question écuménique. Est-il véritablement satisfaisant de considérer que les persécuteurs des chrétiens, je cite le cardinal Courtecor, que les persécuteurs des chrétiens ont une meilleure vision écuménique que nous, parce qu'ils savent que nous sommes profondément une seule chose. Je ne peux pas cacher ma déception en lisant cette phrase, car il me semblait précisément que, via des années d'écuménisme, nous avions appris à développer un concept d'unité qui était autre chose qu'être une seule chose, et où la violence d'un ennemi qui unit dans la mort parce qu'il refuse de distinguer est tout le contraire de ce que nous cherchons à faire, à nous unir dans la vie, en sachant distinguer. Est-il donc acceptable de considérer qu'il y a là un meilleur écuménisme que celui que nous avons tenté de produire? Je préfère un écuménisme du consensus différencié. Je préfère me poser la question de savoir ce qu'un consensus différencié représenterait dans la pratique, plutôt que d'imaginer que des pratiques nous mèneraient vers une unité immédiate. En l'occurrence, et c'est la deuxième remarque que je ferai, en m'excusant du caractère lapidaire de mes constatations, il faudrait évidemment ouvrir un vrai débat là-dessus. La seconde remarque que je ferai est que lorsque le pape François présuppose, et là c'est bien lui, et pas, il n'y a pas d'effet de relecture via le cardinal Courtecor, lorsque le pape François présuppose que ce serait un bon slogan écuménique que de parler d'écuménisme du sang, je me demande s'il a pris le temps de considérer ce que le sang et ce que la théologie du sang pouvait être chez les protestants, sachant qu'elle est souvent précisément très différente de la théologie du sang et des pratiques autour du sang chez les catholiques. Peut-on véritablement, en proposant une formule aussi belle soit-elle, penser qu'elle va être facilitatrice de compréhension? Je n'en suis pas sûr. J'en reviens au registre biblique, qui est le dernier que je n'ai pas encore cité. Je serai là encore trop rapide, mais le temps m'y force. Il faut noter qu'il y a eu de grands projets de théologie écuménique biblique, des aventures comme celle de la traduction écuménique de la Bible. Il me semble que nous avons actuellement une plus grande difficulté à inclure la Bible dans nos méthodes théologiques. Je ne vous cacherai pas mon insatisfaction, par exemple, dans la déclaration commune sur la doctrine de la justification, écrite, certes, plutôt par des dogmaticiens, je ne vous cacherai pas mon insatisfaction quant à son volet biblique, qui, à mon avis, est un des points les plus faibles du texte. C'est une caricature de biblisme de dogmaticien, dans le mauvais sens du terme, avec un effet d'entonnoir, où l'on commence par une diversité biblique et on finit par se concentrer lourdement sur l'épître aux Romains. J'attendrai des biblistes une exhortation à avoir une démarche biblique plus convaincante pour avoir une plus grande force démonstrative dans nos affirmations. Alors j'entends, en dialoguant avec mes collègues biblistes, que face au défi, malheureusement, d'un retour du biblicisme qui se présente souvent dans leur matière, ils sont obligés de passer beaucoup de temps dans leurs travaux à maintenir le choix d'une théologie historico-critique. Ils sont obligés de passer beaucoup de temps à maintenir que l'écuménisme consiste aussi à déconstruire ensemble le texte biblique. Mais le risque serait de ne jamais revenir, et je me permets de le dire ainsi, car eux-mêmes, mes collègues biblistes, ont pu l'exprimer devant moi. Il y a ce défi, malgré la pression bibliciste qui fait que l'on doit rappeler l'importance de la déconstruction, il s'agit quand même aussi de développer une théologie biblique constructive par l'interprétation partagée des Écritures. Ma troisième partie sera plus brève. Pour l'actualité d'un dialogue écuménique avec cette question, que je me réjouis que mon propos recoupe en partie celui de Catherine Schork-Lucas, la question aujourd'hui posée de savoir si le but de l'écuménisme, la quête de l'unité, est toujours bien maintenu. Je parlais tout à l'heure de l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, qui insistait sur le caractère théologale de l'amour, comme de la vérité, qui ne sont justement pas que des vertus humaines, mais qui viennent de Dieu et invitent à être ensemble dans l'amour de Dieu, dans la vérité de Dieu, donc être ensemble en Dieu. Il me semble que cette incitation peut largement être partagée par les théologiens protestants, surtout si nous l'entendions comme une aide pour nous décentrer d'une démarche écuménique trop ecclésio-centrée, et du coup peut-être pas assez théocentré. Il me semble que notre démarche écuménique pourrait être plus ecclésiale si elle était moins ecclésio-centrée. À propos du but de l'écuménisme, je cite deux interpellations récentes portées vers la théologie protestante. Il y aurait beaucoup d'occurrences possibles. J'ai retenu un texte de Charles Morero, théologien éminent, à l'occasion de la visite du pape François à Genève, déjà cité en juin dernier. Voici ce que dit Charles Morero. Le dialogue écuménique signifie-t-il ressentir le besoin d'une unité à atteindre ? Ou bien consiste-t-il à gérer de manière harmonieuse, fraternelle et cordiale une unité que l'on possède déjà et dont on se contente? Pour les catholiques, l'unité visible reste le but. Mais en voyant les nombreuses confessions protestantes qui vivent bien les unes avec les autres, nous avons parfois l'impression que la seconde prévaut. Je pourrais de la même manière citer des formules qui nous interpelle fortement, nous, théologiens protestants, du cardinal Courtecor, qui se demande, à peu près avec les mêmes formules, si nous n'avons pas, en quelque sorte, délaissé le but de l'écuménisme dans son côté ecclésial. Alors, je pourrais bien sûr me placer sur le registre de la riposte, en disant, par exemple, que la démarche de consensus différencié, telle qu'elle a été choisie par la théologie luthérienne et réformée, peut produire des effets visibles d'unité de l'Église, car tout concrètement, une des unions d'Église qui se sont produites ces dernières années, ou dans le contexte européen, ce sont justement des unions entre Églises luthériennes et réformées sur la base d'un consensus différencié type Leuenberg. Donc, ce simple fait pourrait montrer qu'on n'a pas totalement abandonné du côté du protestantisme l'idée d'une unité visible dans un sens très institutionnel de la chose. Mais ce qui m'interpelle un peu plus et ce qui me dérange un peu plus dans ce type de prise de parole est que, toujours dans une dialectique de la paille et de la poutre, on est très humainement enclin à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre théologie ou de l'autre église, mais on ne fait pas forcément le geste en retour de se demander quelles sont les pouilles dans notre propre œil. Alors, la paille, voire la poutre, dans l'écuménisme ou dans la quête de l'unité des églises protestantes, je crois qu'il faut en prendre acte très sérieusement. Nous recevons les interpellations de Charles Morero, du cardinal Courcor et toutes les autres qui nous disent que bien souvent les églises protestantes se détournent d'une véritable quête de l'unité aussi à travers l'institutionnalité de l'Église. Et je me permettrai de citer par exemple André Gounel qui avait trouvé une formule frappante disant que la division était une maladie congénitale de la famille réformée. Et vous voyez que là, il interpellait les difficultés quant à l'unité de sa propre famille, puisqu'il est théologien réformé. Ce qui me dérange par contraste un peu plus dans la formulation de Charles Morero ou dans celle du cardinal Courcor est l'idée que l'on pourrait critiquer les autres en indiquant qu'ils ont abandonné le but de l'unité visible, mais rester très satisfait avec cette affirmation, je recite, « Pour les catholiques, l'unité visible reste le but. » Je vois quand même un problème d'ecclésiocentrisme. Et je vais citer justement le théologien d'Alfert, cité en l'occurrence par Élevé le Grand, qui écrivait, théologien protestant luthérien, « Aucune herméneutique, fût-elle théologique, ne peut être liée à un programme d'unification ni prendre l'Église comme but. » Dès que l'on fait cela, l'herméneutique a perdu sa fonction critique. Aussi longtemps que le mouvement écuménique n'abandonne pas une perspective ecclésiocentrique d'une unité visible de l'Église dans la doctrine et le ministère, on ne pourra pas dire que l'écuménisme ait abordé les temps modernes. Alors, il faut bien interpréter cette formule. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut abandonner la recherche d'une unité visible de l'Église en toute chose, mais abandonner l'ecclésiocentrisme dans cette recherche d'une unité visible de l'Église, qui n'est pas la même chose. Je partirai pour cela, ou je l'expliquerai cela, à travers la formule du père de Lubac, la fameuse, qui disait « L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église ». Il me semble que cette formule serait beaucoup plus simple à partager par les protestants si cette même circularité était prise dans le sens « L'Eucharistie fait l'Église » et l'Église fait l'Eucharistie. Il s'agit de la même circularité herméneutique, mais dans un cas, on part de l'Eucharistie, on passe par l'Église comme moyen dans la main du Seigneur, et on arrive à l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église. Mais donc pas seulement sommet, aussi source. Si la même boucle est envisagée, il s'agit effectivement de la même, mais si la même boucle est envisagée dans le sens « l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église », alors je ne dis pas que c'était l'intention du père de Lubac, mais l'interprétation se présente tout de même assez vite de considérer tout cela comme une question à l'intérieur de l'histoire de l'Église plutôt qu'une question à l'intérieur de l'histoire de Dieu avec le monde. Je propose donc que notre chaire de théologie écuménique parvienne, pour être pleinement de théologie ecclésiale, à être moins ecclésiocentré et plus théocentré. Merci. Et excusez-moi, s'il vous plaît, de la longueur de mon propos.
Vous êtes largement excusé, bien sûr. Mais tout aussi largement remercié. Merci en particulier de nous avoir rappelé ce parcours historique, notamment au niveau du dialogue, la première phase, qui est une phase de rencontre, auquel succède un dialogue bilatéral doctrinal. Merci d'avoir rappelé également, ça me paraissait important, l'importance du dialogue doctrinal, alors qu'il peut être aujourd'hui comme un peu disqualifié au niveau œcuménique. Donc merci d'avoir rappelé l'importance qu'il a eue dans l'histoire justement de nos dialogues. Et enfin, en troisième phase, l'impact en Église et là le registre de la pratique. Et en particulier, je retiens cette interpellation à une meilleure interdisciplinarité et également la nécessité d'un langage commun, ce que l'on peut oublier dans une démarche œcuménique où, de fait, on peut parfois penser que chacun doit d'abord affiner son propre langage en oubliant qu'il y a ce langage commun à trouver. Donc merci de nous l'avoir rappelé. Et enfin, merci d'avoir peut-être à nouveau souligné l'importance du consensus différencié dont nous allons fêter les 20 ans comme méthode de théologie œcuménique. Et en même temps, tout en nous rappelant son importance, nous dire aussi que peut-être cela peut produire un langage qui est justement trop doctrinal en ne mettant pas à sa juste place la Bible. Et je retiens cela comme une interpellation forte de ce soir, à savoir la place de la Bible et l'interdisciplinarité dans la démarche œcuménique. Et je termine en disant que j'entends cette interpellation aussi, qui est votre interpellation, donc à propos de la quête de l'unité visible de l'Église, comme une remise en question. Comment devons-nous l'entendre et quitter peut-être un ecclésiocentrisme tel que vous l'avez décrit. Voilà, donc j'entends aussi cette interpellation que vous faites donc à l'issue de vos propos. En tout cas, merci Frédéric. Et nous vous proposons maintenant de pouvoir entrer dans un temps de débat ou de questions, tout simplement de questions-réponses, de demandes peut-être de précisions ou bien de réactions sur tel ou tel point. Je crois qu'il y aura deux micros qui vont circuler, donc la parole, les réactions peuvent être fluides. Sans doute serait-il bon de préciser à qui vous adressez la question ou la remarque, si vous en avez une ou je ne sais, ou un commentaire. C'est à Catherine Schurk-Lucas ou à Frédéric Chavel ou aux deux. Et nous vous proposons de commencer, de collecter d'abord trois questions et on fera comme ça par bouquet de deux, trois questions. Voilà, merci. Donc la parole est à vous.
Merci en particulier à l'intervention de M. Frédéric Chavel. Ma question s'adresse à lui. Comment définiriez-vous plus précisément la question de la... De l'écuménisme du sang, vous sembliez dire qu'il y avait une autre conception du côté de ce que le pape François entend par ce terme par rapport à ce que vous mettriez dans la confession protestante dans la même expression. Merci beaucoup.
Jane Strauss, dans la suite de cette dernière question, vous avez tous les deux évoqué quelque chose autour des victimes, les martyrs, l'œcuménisme du sang d'un côté, les victimes de l'Église de l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser autour de la martyrologie en Église, chacune de nos Églises. Chacune de nos églises a créé des martyrs, il me semble, et peut-être cela pourrait aussi être un thème à venir, où au lieu d'être toujours la martyre de l'autre, de mettre en question la martyrologie de l'autre, nous essayons de voir ce que nous avons, comment nous avons créé des martyrs.
Avec Jean. Ah oui, voilà. Alors, avec Jean. J'étais très intéressé et passionné par vos interventions, mais j'avais l'impression que j'assistais à un débat entre l'Église catholique et l'Église et les Églises réformées. C'est-à-dire, je n'ai pas entendu une seule fois parler du dialogue qui existe depuis déjà pas mal d'années entre l'Église catholique, les Églises protestantes et les Églises de la tradition orthodoxe. Je suis étonné de ce silence.
Donc, peut-être Frédéric Chavel, vous prenez la première question sur le martyr du sang.
D'accord, je pensais. Alors.
Non, donc, comme vous voulez.
Très bien. Alors, sur la première, sur l'écuménisme du sang, merci de votre question qui me permet d'affiner mon propos, de préciser ce que j'y entends. Si j'exprime cette insatisfaction, c'est parce que je pense qu'il y a certainement, dans ce que dit le pape François, une intuition juste. C'est-à-dire qu'il y a certainement quelque chose à faire dans le partage de ce qui se passe autour de ces douleurs, de ces massacres. Ce n'est pas parce que l'intuition est juste qu'on est forcément satisfait avec la première proposition qui est faite sur ce registre. Et ce qui me fait dire que c'est pas si simple se comprendre sur la thématique du sang, c'est que ça me semble assez manifeste, que nous n'avons pas, non seulement entre protestants, orthodoxes, catholiques, et à l'intérieur des différentes traditions protestantes, nous n'avons pas la même théologie de la douleur, nous n'avons pas la même théologie du sang, nous n'avons pas la même théologie du martyr, ni du sacrifice, etc. Un exemple tout simple. Moi-même, je suis de tradition luthérienne, donc je peux me définir comme théologien luthérien, mais grâce à l'Église unie, maintenant je prêche aussi très librement dans des paroisses réformées. Il a pu m'arriver, il y a pas plus qu'un an, de prêcher dans une paroisse réformée sur le prix un verset qui parlait du prix du sang du Christ, et cette prédication a été reçue comme une provocation par une part des frères réformés à qui je la donnais. Ils ont eu l'impression que je venais les déranger, alors que moi, quand je prêche, je viens pour servir. Mais ils ont pu penser que je venais pour les déranger, tout simplement parce que leur culture théologique autour du sang était très différente d'une culture luthérienne. Et donc, pour eux, ce que j'apportais était en partie inaudible, parce qu'il y avait toutes sortes de blocages, de réserves. Donc, voilà, c'est des expériences très concrètes, où encore on pourrait parler de ce qui s'est passé dans le cadre du dialogue de réconciliation luthérien-ménonite, autour de ces questions. On voit que les situations de douleur, de puissance, la manière de se projeter soi-même dans la relation, les imaginaires collectifs, qu'on mobilise au moment où l'on construit notre relation aux chrétiens d'Orient sont très différents suivant ce qu'on a vécu. Donc je pense qu'il faudrait être dans cette quête d'un écuménisme sur la question du sang, du martyr, de la douleur. Il y a effectivement du travail à faire. Je pense pas qu'on puisse passer à côté de quelque chose comme un consensus différencié, justement. Et alors, ça me permet de passer à autre chose, une autre précision. Je ne pense pas que la notion très doctrinale de consensus différencié soit directement transférable en théologie pratique. Mais par contre, je pense que la notion de langage commun, la quête d'un langage commun, comme on a dans la doctrine, pourrait peut-être trouver une analogie comme quelque chose comme dans la quête d'une culture commune qui se vivrait à travers des pratiques. Je pense qu'il y a des cultures chrétiennes différenciées, l'odeur de l'encens ou ceci ou cela. Ça pourrait être un objectif ou une méthode écuménique de créer des cultures communes. Et là, peut-être qu'on pourrait mieux se comprendre sur le sang. Pardon pour la longueur de ma réponse. Je reviens sur pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de l'orthodoxie. Je croyais que mon propos avait déjà été assez long, mais je comprends que malgré tout, il reste toujours des manques. Non, si je l'ai pas fait, tout simplement, c'est parce que moi, forcément, je viens en respectant le fait que je suis théologien protestant, donc je parle de ce point de vue protestant. Or, le dialogue protestant-orthodoxe qui existe et qui est très intéressant et tout particulièrement en France, a produit moins d'effets évidents que le dialogue protestant-catholique. Donc je me fonde sur les résultats qu'on a à notre disposition, mais évidemment on aurait pu reparcourir tout ce qui se fait dans le dialogue protestant-orthodoxe. Ça m'aurait permis de ne pas vous oublier apparemment.
Peut-être que Catherine Scherk-Lucas peut ajouter quelque chose.
Oui, Monseigneur Jean, j'allais dire mea culpa. Mea culpa, je savais que j'étais consciente de voilà, il faut dire que je me suis laissée emporter par Karl Rahner et mais c'est je pense que dans la en fait, dans la manière de comprendre la quête d'une langue commune, c'est bien sûr très important de travailler de dialoguer avec l'orthodoxie. Donc ce n'était pas un choix délibéré.
Puis-je en principe, on est ici au Centre Sèvres, donc je devrais respecter votre politesse en ne faisant pas de la pub pour d'autres lieux, mais voilà, votre question m'y amène quand même. Au printemps prochain, il va y avoir dans le cadre de l'ISEO un colloque justement sur les 20 ans de la Déclaration commune. Et d'un point de vue de méthode, dans la préparation de ce colloque, ça a été une difficulté justement. Comment faire pour ne pas faire de cette affaire juste une affaire de théologien latin, mais aussi intégrer la théologie orthodoxe dans ce colloque. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais venez voir si on aura réussi à aller un peu au-delà de ce malentendu.
Recueillir d'autres questions ou réactions.
Merci beaucoup de vos interventions. Je pose cette question...
Un peu plus fort, peut-être, si voilà. Si. Merci.
Je pose cette question à chacun d'entre vous. Et j'espère que vous ne l'entendrez pas comme quelqu'un dans la salle l'entende comme une offense, parce que ou comme une sottise, mais c'est quelque chose qui me préoccupe. Entendant ce que le pape François répète inlassablement, une église de pauvres pour les pauvres, il y a actuellement des pauvres en très grand nombre qui rejoignent les évangélistes, les églises évangélistes. Et il m'a semblé, peut-être je me trompe, que leur chemin est un chemin plutôt de rupture avec les autres confessions plutôt qu'un chemin de dialogue. Je souhaiterais avoir votre avis sur cette question.
Autre question ?
Je me suis trouvé une question. Est-ce que la prière prend une grande importance à la vie d'un théologien entre vous? Parce que je trouve, avec la prière qui nous ouvre l'esprit, à ce moment-là, vous trouvez facilement, parce que la Bible, l'Évangile, envoie parce que nous aimons le même Dieu de Christ. Nous devons toujours honorer le Christ et aimer le Christ. Et je trouve, avec amour et avec l'Esprit Saint, en bien priant, on trouvera une foi. Ça, c'est sûr, c'est mon point de vue. Merci.
Andreas. Non, j'ai rien dit. Non. François.
Justement, il y a une sœur évangélique qui est juste devant moi qui a quelque chose d'important à dire.
Non, moi je voulais. J'ai raisonné avec beaucoup de joie à ce que vous disiez vous parliez de l'horizon missionnaire et d'évangélisation, que l'unité viendra de Dieu, mais que c'est à nous de dresser des signes annonciateurs de la dernière victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces signes annonciateurs? Est-ce qu'on les voit déjà? Quels sont-ils?
On entend peut-être encore la question, oui, de François Michon. Oui.
Est revenue cette notion essentielle de consensus différencié très très régulièrement. Et puis vous en donnez, Frédéric Chavel, un très très bon exemple à travers la formule du cardinal de Lubac sur l'Eucharistie. Et au fond, on la reprend ensemble, mais on la prend chacun par un bout et qui exprime bien cette différence. Le pape François utilise récemment cette formule de diversité réconciliée aussi fréquemment, qui dit peut-être un petit peu la même chose, mais par un autre bout, et parce qu'il y a cette diversité, mais peut-être qu'elle part justement de cette diversité. Le consensus, c'est déjà tout un travail très très fort dogmaticien et au théologien, bravo, et on a vraiment envie de vous féliciter. Et ce travail est vraiment nécessaire pour aboutir à ce consensus et saisir ce qui nous différencie dans l'expression de ce consensus et qui en fait toute la finesse. Dans la diversité réconciliée, on part au fond de ce qui est peut-être plus évident entre les chrétiens quand ils se rencontrent, cette diversité, justement dans cette odeur de l'encens dont vous parliez, quoi. Et pourtant, où il y a ce travail de l'esprit qui est un appel pressant qu'on aurait entendu ce soir vers la réconciliation de cette diversité. Et là, il y a un travail de l'esprit dans la réconciliation. Consensus différencié, il y a un travail quand même bien humain. Dans la diversité réconciliée, il y a la même chose, mais peut-être par un autre bout de la grâce, j'en sais rien. C'est, la question est à tout le monde.
Alors, Catherine ou Frédéric, la troisième question était plutôt pour vous, hein, Catherine, je crois.
Donc la citation à la fin dans la quatrième partie, c'était le message fondateur du Conseil œcuménique des Églises en 1948, donc qui rappelait que l'unité viendra de Dieu et qui invitait les chrétiens ensemble à poser des signes annonciateurs. Donc votre question, c'est: et aujourd'hui, quels pourraient être ces signes? Quels sont ces signes? Je pense que nous avons des signes depuis les temps aussi. C'est là où les chrétiens sont auprès des pauvres. Les chrétiens sont auprès de ceux qui sont dans le besoin. Je pense que c'est un signe très fort et important à ne pas négliger. Mais il y a aussi de nouveaux signes à inventer aujourd'hui. Je pense que c'est un travail qui se fait, par exemple, avec les jeunes au Synode des évêques de Rome, de parler des nouveaux signes qui traduisent la présence du Christ dans le monde aujourd'hui.
Oui, la question de la diversité réconciliée ou bien la première.
Alors, je vais commencer rapidement par la première, même si elle est immense. Hein, donc, j'y reviendrai le moment venu. Oui, oui. Mais la toute première portait sur l'Église de pauvres pour les pauvres et la question de savoir est-ce que ça concernait aussi les Églises évangéliques. Alors, d'abord, je pense qu'il faut préciser que le développement des Églises évangéliques ou des églises pentecôtistes, enfin il y aurait toute des nuances à faire, hein. Mais le développement de ces églises ne concerne pas que des personnes matériellement pauvres, hein. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans nos sociétés matériellement, culturellement très riches et qui ont besoin de ces églises pentecôtistes ou évangéliques. Alors pourquoi est-ce que des pauvres comme des riches, matériellement, financièrement, culturellement, pourquoi est-ce que des gens pauvres comme misérables ont tous peut-être besoin des églises évangéliques? Ben c'est parce que on est tous pauvres spirituellement, en tout cas ça c'est la constante, et que les autres églises ne répondent pas à certains aspects. Donc je pense que là, tout simplement, quand on voit qu'il y a un mouvement massif de chrétiens qui ont besoin de s'abreuver à telle source, je pense qu'on est obligé de reconnaître qu'on ne les a pas nourris, ou plutôt, parce que c'est pas à vivre comme en concurrence, on est obligé de reconnaître que ces nouveaux mouvements font apparaître des aspects de la vie d'église qu'on avait oubliés. Mais en tout cas, je voudrais pas superposer ça trop rapidement avec la question des pauvres et des riches. Je reviens vers la question, excusez-moi, c'est trop rapide, hein, mais bon. La question du consensus différencié, c'est très important de marquer la différence entre consensus différencié et diversité réconciliée, puisque le consensus différencié, précisément, n'est qu'une technique. C'est de la science, hein, c'est une technique de méthode scientifique, tandis que la diversité réconciliée, on est sur le registre de l'Église, de la vie d'Église, de la communion. Donc, cette différence, bien sûr qu'il y a une inclusion de l'un dans l'autre, mais je dirais, pour faire une formule, que le consensus différencié, c'est la technique doctrinale qui correspond à l'enjeu large de la diversité réconciliée. Donc cette quête de la diversité réconciliée, doctrinalement, on l'a fait par le consensus différencié, on n'a peut-être pas réussi à totalement dire comment on la respecte sur d'autres registres de la théologie et de la vie d'Église. Je pense qu'il y a des gestes qui peuvent être faits. Je me permets cette remarque, ce qui rejoindra la question de la prière. Hein, comment est-ce que la prière ou peut être un fondement? Ben oui, c'est ce que je veux faire. Quand je disais être moins ecclésiocentré, c'est vrai que dans une, ça renvoie à une publication qu'on avait récemment, enfin que j'ai faite récemment dans les recherches de sciences religieuses, où à la fin j'indiquais que la voie de réconciliation proposée sur la question des ministères, dans plusieurs documents de dialogue qui va des églises vers le ministère puis vers l'Eucharistie, c'est vrai qu'en théologie protestante, en tout cas de mon type de théologie protestante, on serait plus à l'aise avec une démarche qui parte de l'Eucharistie et plus largement du baptême, de l'Eucharistie, de la vie de prière partagée, et qui aille de cette source vers la découverte ou redécouverte de ce que doit véritablement être l'Église. Mais ça suppose quoi? Pour qu'on fasse du partage de l'Eucharistie une puissance de réconciliation, ça suppose qu'on développe des pratiques qui ne sont pas toujours là. Je me permets de dire encore juste ça. À propos du fait que les protestants ne peuvent pas participer, alors c'est toute une question, hein, je ne veux pas lancer tout sur ce sujet, mais à propos du fait que on n'a pas les mêmes conceptions du rapport entre Église et Eucharistie, qu'il y a un certain defectus dans la théologie protestante au regard de la théologie catholique, moi j'avais beaucoup apprécié un article de Bernard Sesbouet, justement, qui était là tout à l'heure, qui nous disait que finalement, il y avait dans la pratique eucharistique catholique une infirmité tant que cette pratique eucharistique ne parvenait pas de fait à accueillir tous les autres chrétiens. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire de pas simplement parler du defectus chez les autres, mais d'intégrer l'infirmité de sa propre pratique. Et ça devrait, par exemple, être acté à l'intérieur de la liturgie eucharistique. Parce que vivre une liturgie eucharistique où l'Église assumerait liturgiquement l'infirmité qu'elle a actuellement dans sa force de communion, eh bien là, ça permettrait que chaque liturgie eucharistique, même n'accueillant pas les protestants, ait en soi un germe de réconciliation. Alors qu'actuellement, les liturgies eucharistiques qui n'incluent pas cette attention à celui qui est laissé à la porte, aggravent la division.
Justement, je pense que la prière est très importante. Mais que nous pouvons aussi regarder la créativité qu'il y a dans les prières œcuméniques. Parce que comme nous avons forgé par les dialogues doctrinaux de nouvelles langues, des langues communes, je pense que l'œcuménisme spirituel a aussi forger un différent type de prière. Et donc, c'est intéressant de se pencher sur les manières de prier en contexte œcuménique. Si nous pensons à la célébration de Lund, par exemple, et à d'autres célébrations œcuméniques, nous retrouvons souvent les mêmes éléments. Action de grâce, prière de pénitence, invocation de l'Esprit Saint,
j'avais envie de revenir sur le dialogue avec le monde évangélique, qui est très important autour de nous aussi à Paris, en France, dans le monde, pour protestants, catholiques et orthodoxes. Il y a une prise de conscience tous que nous sommes devenus, en tout cas en Occident, très minoritaires. Et qu'un des grands défis aujourd'hui, c'est l'évangélisation, la croissance de l'Église, c'est de sortir de nous-mêmes, d'aller vers les autres. Et je vois sur le terrain qu'il se passe énormément de choses entre des catholiques qui s'intéressent au monde évangélique autour de ces thèmes d'évangélisation et de croissance de l'Église. et qu'il y a vraiment de nouvelles relations œcuméniques là qui se créent, un intérêt les uns pour les autres. Comment pouvons-nous annoncer le Christ dans ce monde en pleine mutation qui va très vite, et les évangéliques parfois se débrouillent très bien. Et je sais que depuis des années, des évêques envoient aussi des prêtres à voir aux États-Unis, en Angleterre, comment des églises évangéliques vivent une vraie croissance dans le monde actuel, qui nous rend jaloux, disons-le, osons le dire. Je pense que là, il y a un enjeu œcuménique très, très beau pour les années à venir, très important, parce que quelque part, comme pasteur sur le terrain, je sens qu'il y a pas beaucoup de choses, comme si l'esprit à l'œuvre dans tout cela, parce que toutes nos églises sont traversées aujourd'hui et demain encore plus peut-être, par cette question de renouer avec nos contemporains, leur annoncer l'évangile, la croissance de l'église, et on est tous devant ce même enjeu, et le dialogue avec les évangéliques est aussi autour de tout cela, et je pense qu'il sera très prometteur.
Je voulais juste dire pour madame ce fameux adage d'un célèbre moine du désert d'Égypte qui dit « Est théologien celui qui prie, et celui qui prie est théologien. » Voilà.
Eva Caron. Oui.
Sur les églises évangéliques, c'est une immense question, hein, bien sûr. J'aurais pas la prétention de répondre, parce que mais je peux vous donner, en tout cas, partager avec vous un élément de souci. Pour moi, je me permets de le dire parce que j'ai aussi affiché il y a un instant le fait que je voyais avec beaucoup de positivité tout ce qui se passe, en constatant qu'il y a des églises qui parlent et qui nourrissent des personnes que nous n'avons peut-être pas réussi à nourrir. Une fois ça posé, je peux partager avec vous un souci dans le développement d'églises jeunes. Alors, certaines églises évangéliques, par ailleurs, sont des églises avec une histoire fort ancienne. Et puis, de toute façon, toute véritable église a des racines qui remontent au plus profond de la tradition chrétienne, c'est certain, qu'elles le reconnaissent ou pas. Mais il y a quand même, dans certaines églises évangéliques, un effet de jeune église. Et puis, les adolescents pensent qu'ils vont être de bien meilleurs adultes en rejetant totalement ce qu'ont fait les vieux, les parents ou les grands-parents. Et parfois, il y a un peu de ça, c'est-à-dire une dialectique de la jeune église qui rejette les vieilles églises, et aussi derrière ça, une dialectique des églises de la force, parce que le thème d'église en croissance peut très facilement être couplé avec des idéologies de la croissance dans un sens beaucoup plus mondain. Et dans ce cas-là, on arrive à des systèmes d'église de la force ou de la domination. Et on pourrait perdre la notion d'église de la pauvreté christique, la faiblesse du Christ crucifié. Et alors, il me semble que c'est particulièrement dangereux, ces glissements-là, dans des contextes comme ceux des, par exemple dans certains contextes, parce qu'il y aurait toute une variété, mais certains contextes d'églises africaines, dans des pays où il y a 97% de chrétiens. J'ai fait certains voyages dans ces contextes. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les églises, alors 97% de chrétiens, avec un pourcentage de protestants invraisemblable pour nous les Français, et ces églises protestantes sont clairement dans des situations de concurrence les unes contre les autres, même pas face aux autres. Elles essayent de prendre les paroissiens les unes des autres. Et malheureusement, ces contextes de relations violentes, totalement anti-écuméniques entre églises, elles participent dans beaucoup de lieux aux logiques qui se mettent en place dans ces églises, et après ça peut être transporté chez nous, alors qu'en principe la situation européenne normalement devrait plutôt inviter à une solidarité dans la pauvreté de l'Église. Mais il y a des transferts qui se font avec des situations de rivalité, d'Église de la force et d'Église de la croissance en un sens très financier et très mondain. Donc voilà. Mais heureusement, les églises évangéliques, en tout cas en France, quand on parle avec Étienne Lermenot, le président du CNEF, il y a un énorme travail qui est fait justement pour pas être dans ces démons-là.
Donc si j'ai bien compris votre question, votre souci, c'est comment annoncer le Christ ensemble aujourd'hui entre chrétiens évangéliques, catholiques, orthodoxes, comment porter cette annonce ensemble? Oui. Donc je partagerai le même souci d'éviter une logique de concurrence ou une logique de jalousie et d'inviter les pasteurs et les responsables sur le terrain de se poser les questions. Pouvons-nous, devons-nous faire tout ce que nous pouvons faire ensemble? En fait, d'aller ensemble dans une logique. Et je pense que, en fait, pour prendre un exemple concret, si on est dans un secteur, je pense que c'est écuméniquement responsable de connaître les autres ministres, les autres présences chrétiennes et chercher à faire tout ce que il vous est possible de faire ensemble. Voilà, de réfléchir, d'agir ensemble. Parce qu'il y a énormément de choses que nous pouvons faire ensemble que nous ne faisons pas ensemble, encore.
Je crois que Anne-Cathy aussi souhaite intervenir sur ce point.
Très, très brièvement, merci Andreas en tout cas pour la question, la manière dont elle a été formulée. Moi, il me semble aussi, pour reprendre en réentendant ce que vous avez dit, Frédéric, que si nous accentuons la question, l'œcuménisme avec aussi les églises évangéliques, il me semble que ça déplacera aussi largement la place de la doctrine, du dialogue doctrinal. Je ne veux pas dire par là que les évangéliques n'ont pas de doctrine, certainement pas, mais il me semble qu'on fait de la théologie très différemment. Donc, et là, ce sera un gros déplacement, je pense, pour le dialogue œcuménique. Et je crois qu'il y a aussi des résistances qui se situent là, de part et d'autre, hein, d'ailleurs. Mais il me semble que là, ça, je pointerai ça par rapport au dialogue doctrinal.
De mon côté, je voudrais non pas relancer, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de faire droit à cette question pleinement, mais au moins rappeler un autre point de votre intervention qui m'a semblé très important. Vous avez évoqué la question du rapport à l'écriture et vous avez pris distance critique, hein, par rapport à la manière dont l'écriture est traitée dans la déclaration conjointe sur la justification par la foi. Je dois dire que je partage votre réserve, hein, sur ce point. Et je trouve que positivement, ça appellerait vraiment une réflexion de fond. Par quel chemin une lecture renouvelée de l'écriture serait féconde aujourd'hui dans la perspective des dialogues œcuméniques qui nous attendent? Je crois qu'il y a vraiment une question importante, là. En tout cas, je t'ai frappé par votre développement sur ce point. Si là-dessus, vous souhaitez préciser un peu votre...
Non.
Je crois en tout, je pense qu'il faut vraiment garder cette question.
Disons, aujourd'hui, sur quel point, concernant la DCDJ ou...
Non, plus largement.
Plus largement
peut-être qu'il y a une méthodologie, une manière de lire l'écriture dans les dialogues œcuméniques qui doit être revue.
Oui, mais précisément, c'est-à-dire un de mes points était de dire qu'il fallait éviter le biblicisme, éviter le biblicisme, certes d'un côté, mais aussi éviter la théologie biblique de dogmaticien. Donc précisément, je voudrais pas trop entrer en matière et laisser un peu plus les exégètes, parce que ça dépend, ce serait très variable d'un contexte à l'autre, mais il me semble que on n'est pas partout. Tout a réussi à aller au-delà du malentendu qui consisterait à dire que la dogmatique serait du registre de la théologie affirmative et puis les sciences bibliques du côté d'une exégèse plus prudente. La catégorie de théologie biblique a été employée de manière si problématique en théologie protestante vers le début du XXe siècle que nos biblistes, jusqu'à aujourd'hui, ont du mal à revenir vers l'idée, alors non pas de refaire une théologie biblique, mais l'idée, en tant que bibliste, de faire de la théologie constructive. Mais précisément, je pense qu'il ne faut pas forcer les choses et laisser les biblistes nous dire ce qui émerge de leur travail.
Nous avons peut-être le temps d'une dernière question. On arrête à 21h30. Donc si quelqu'un souhaite poser une dernière question, n'hésitez pas. Ou une réaction. Peut-être ici même, enfin, Frédéric ou Catherine, si vous souhaitez ajouter un mot.
Voilà, peut-être pour vous remercier encore une fois pour l'invitation et souhaiter une très belle réussite à cette chaire de théologie écuménique et de souhaiter des collaborations futures avec nos institutions respectives. Ça sera avec grande joie.
Voilà, je crois que nous avons une soirée qui a permis d'entendre beaucoup de questions, des questions très importantes qui se posent aujourd'hui, qui se posent pour l'avenir. De cette manière, le fait que ces questions dans divers domaines soient apparues confirme l'affirmation qui est au point de départ, à savoir que la pratique même du dialogue œcuménique, mais aussi plus largement la situation des diverses églises, confessions chrétiennes, nous renvoie aujourd'hui à des questions théologiques fondamentales, qu'il s'agisse du rapport à l'Écriture, qu'il s'agisse de l'ecclésiologie, qu'il s'agisse de l'Eucharistie, et bien d'autres choses encore. Naturellement, nous avons fait des choix. Nous n'avons entendu que deux interventions, une théologienne catholique, un théologien luthérien. Il aurait été possible, évidemment, d'entendre aussi un théologien orthodoxe, un théologien d'une autre tradition protestante ou évangélique ou anglicane. Mais il fallait faire des choix pour cette fois-ci. Et je voudrais vraiment, en votre nom à tous, remercier à nouveau chaleureusement Catherine Chac-Lucas et le pasteur Frédéric Chavel pour leurs interventions. Et vous remercier vous tous d'être venus si nombreux assister à cette soirée. Merci.
C'était un temps, j'ai